Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, le 22e de la 7e saison avec comme invité aujourd'hui Michel Jamme. Bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Monsieur le maire, vous êtes maire de Sigean, on va y revenir. Vous êtes également un des vice-présidents de l'agglomération du Grand Narbonne, chargé particulièrement, c'est presque poétique, du grand cycle de l'eau.
C'est exact.
Alors Michel Jamme, vous allez nous expliquer tout cela. Mais tout d'abord, alors Sigean, c'est un nom que beaucoup de gens connaissent depuis une cinquantaine d'années grâce à une réserve africaine qui se situe sur ce territoire. Mais c'est évidemment une commune qui a beaucoup grandi au cours des deux ou trois dernières décennies. On va revoir tout ça un petit peu en détail également. Et puis, enfin, je rappelle que vous en êtes à votre deuxième mandat, Michel Jamme, que vous avez entamé il y a quelques mois. Donc, vous aviez été élu la première fois en 2014. De profession, vous êtes dans la banque, je crois.
Voilà, j'étais employé de banque, j'étais cadre dans un établissement bancaire régional et je suis à la retraite depuis quelques mois.
Voilà, ce qui vous permet de mieux vous consacrer à toutes ces, ces compétences et surtout ces charges de la vie municipale et de la vie communautaire. Alors donc, un tout petit mot sur cette fameuse réserve de Sigean qui est un pôle très attractif pour la commune.
Alors oui, tout à l'heure, vous disiez que Sigean était connu depuis une cinquantaine d'années par rapport à la réserve africaine, certes. Mais d'abord, Sigean est connu pour Sigean.
Ah oui, c'est donc, plus vieux que ça.
Exactement. Donc nous en parlerons peut-être sûrement dans un instant, mais c'est vrai que le fleuron de la commune, le fleuron touristique de la commune est également un des fleurons économiques et la réserve africaine. Il faut quand même rappeler que la réserve africaine emploie à longueur d'année 120 personnes en équivalent temps plein et que c'est un acteur économique important de la Narbonnaise, mais aussi du département.
Et c'est un des sites les plus visités du département.
C'est un des sites les plus visités du département, avec 330 000 visiteurs payants annuellement, à quelques unités près, en période évidemment normale, puisque avec la période, la crise sanitaire que nous vivons, la réserve est actuellement fermée.
Oui, et quand on réalise 330 000, ça fait pas loin de 1000 par jour en moyenne, quand même.
Oui, ce qui n'est pas sans poser parfois quelques problèmes, notamment
de circulation.
Notamment l'été, parce que le jour de visite de la réserve africaine est souvent fonction des conditions météorologiques.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les touristes notamment vont visiter la réserve africaine les jours où ils estiment ne pas pouvoir aller à la mer ou pouvoir aller ailleurs, et ce qui fait que il y a des jours de très 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 forte fréquentation, et ce qui nous avait posé il y a deux ans de gros problèmes de circulation sur la départementale.
Et alors Sigean, comme vous l'indiquiez Michel Jamme, c'est une ville qui est très ancienne d'ailleurs, qui remonte à l'époque romaine, hein, puisqu'il y a eu des établissements romains sur Sigean.
Mais même avant.
Même probablement avant.
Il y a toujours une trace humaine sur la commune de Sigean. Et puis je vous rappelle qu'avant la période romaine, il y avait donc l'oppidum que nous appelons aujourd'hui Pejmao, qui date du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ.
Qui a été habité.
Et jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Oui, oui.
Et dont la destruction est aujourd'hui. On pense que la destruction est due aux Romains, justement, après le passage d'Hannibal de retour de Rome.
Ah oui, oui, oui. Alors, voilà un fait historique également prestigieux, en quelque sorte.
Et qui montre que la romanité est grandement présente à Sigean également.
Les temps, c'est bien connu, c'était ce qui servait d'arriver...
Des avant-ports de Narbonne.
Des bateaux venant de Rome, enfin, du port de Rome. Et alors, plus proche de nous dans l'histoire... Le port de Port-la-Nouvelle a été créé au milieu du 19e siècle. Auparavant, c'était le territoire de la commune de Sigean, Michel Jamme.
La Nouvelle, oui, était un hameau de Sigean. Et la commune de Port-la-Nouvelle a été créée en 1844 par un édit de Louis-Philippe, par une extraction de territoire de Gruissan et de Sigean.
Oui, c'est-à-dire on a coupé des territoires et on les a donnés à la nouvelle commune.
C'est ça.
Et alors il y a une petite bizarrerie, je crois, qui fait que la commune de Sigean est encore propriétaire de terrain sur cette commune de Port-la-Nouvelle.
Alors, oui, nous étions propriétaires de pas mal de terrains sur Port-la-Nouvelle. La plage aussi, par exemple, appartenait à la commune de Sigean jusque dans les années 30.
Ah bon, mais ça y est, c'est réglé, ça.
Elle a été vendue à la commune de Port-la-Nouvelle, ce qui a permis de payer quelques investissements sur la commune de Sigean. Mais il reste encore tout le plateau qui domine Port-la-Nouvelle. Donc, nous sommes sur le territoire de Port-la-Nouvelle, mais sur une propriété privée de la commune de Sigean.
Ah oui, c'est assez intéressant. Maintenant, venons-en forcément à Sigean aujourd'hui. Alors, c'est une ville qui a grandi beaucoup à partir des années 90, apparemment. Vous êtes, je crois, largement plus de 5000 habitants aujourd'hui.
Oui.
Donc, beaucoup de construction, beaucoup d'urbanisme, avec les avantages et avec les inconvénients aussi. Alors, parmi les inconvénients, peut-être pas, vous allez me le dire, monsieur le maire, vous installez pas mal de caméras en ce moment, des caméras de surveillance, comme ça se fait à beaucoup d'endroits. En général, quand même, quand une ville fait ça, ça veut dire que elle a grandi. Et puis, il y a un sentiment plus ou moins d'insécurité qui commence à naître et les gens réclament des caméras. Est-ce que c'est le cas à Sigean?
Alors, Sigean est une commune qui attire. C'est une commune qui attire parce qu'elle est dynamique et parce qu'elle offre aux populations et aux populations nouvelles un très large éventail de services, que ce soit en termes de loisirs, que ce soit en termes associatifs ou que ce soit en termes économiques ou sociaux. Par exemple, les commerces, les centres médicaux. Donc on trouve beaucoup de choses qui font que les gens viennent sur Sigean. La ville, effectivement, a beaucoup grandi, donc c'est beaucoup étiré. Et aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 6000 habitants. Bon, évidemment, lorsque nous sommes nombreux, mais je crois que mes collègues dans les communes plus petites ont le même problème, il y a pas mal d'incivilités. Donc, bon, il n'y a pas que des incivilités, mais bon, de temps en temps, il peut y en avoir, que ce soit du tapage nocturne, que ce soit des dépôts d'ordures. Et donc, nous sommes amenés, grâce aux caméras, à pouvoir surveiller un certain nombre de choses. Et nous arrivons à résoudre quelques problèmes.
Voilà, comme ça se pratique de plus en plus. Alors, faut-il le regretter ou est-ce que c'est un signe des temps? C'est comme ça, quoi, en fait.
Quand j'ai été élu en 2014, les esprits n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire
il y avait des réticences.
Il y avait beaucoup plus de réticences. Mm. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de réticences. Les administrés ont compris que les caméras ne sont pas là pour les surveiller, qu'elles avaient une utilité, et à tel point qu'aujourd'hui, chacun voudrait qu'il y ait une caméra à chaque angle de rue.
Oui. Voilà, on est passé d'un extrême à l'autre.
Ce qui n'est pas possible, vous le comprenez bien.
Peut-être. Parmi les inconvénients, alors inconvénients, avantages également, il y a le problème des HLM, des logements sociaux. La loi dite SRU, enfin peu importe son nom, dit que lorsqu'une commune a dépassé 3500 habitants, elle doit avoir un taux élevé, je crois une vingtaine de pourcents, de logements sociaux. Sauf que quand on passe de 3400 à 3500, il faut un certain temps pour construire ces logements sociaux. Mais si on ne le fait pas, on est sanctionné.
Voilà. La loi nous impose donc un nombre minimum de logements sociaux. Et si nous n'atteignons pas ce nombre, effectivement, nous sommes pénalisés, avec une pénalité qui est calculée en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'elle dépend du nombre de logements manquants. Elle est proportionnelle au potentiel fiscal par habitant et elle peut être majorée si l'État trouve que nous n'avançons pas assez vite et nous met en position de carence. Voilà. Mmh. Ce qui m'est arrivé en tout début de mandat, puisque lorsque j'ai été élu en 2014, nous avions très très peu de logements sociaux, alors que nous devions en avoir plus de, disons, 500 environ. Il y en avait juste quelques dizaines.
Oui.
Donc il faut quand même savoir qu'en quelques années, ce sont plus de 500 000 euros qui sont partis en pénalité et qui auraient été mieux dans les caisses de la commune que dans les caisses de l'État en termes de pénalités.
Et où en êtes-vous aujourd'hui dans le rattrapage, puisqu'il s'agit de rattrapage ?
Alors, pour que nous réussissions le rattrapage, l'État a mis en place des objectifs triennaux, c'est-à-dire que nous avons un objectif sur 3 ans. Et au terme des 3 ans, dont l'État fait le constat, est-ce que la commune a atteint cet objectif triennal ou est-ce qu'elle ne l'a pas, elle ne l'a pas atteint? Donc, en tout début de mandat, évidemment, l'objectif n'était pas atteint parce qu'il faut du temps pour faire des logements. Il n'était pas atteint. Donc, nous avons été fortement pénalisés, je viens de vous le dire. Fin 2019, par contre, le constat qui a été fait, nous avions un objectif triennal de 141 logements sur la commune et nous en avions réalisé 160. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas eu de surpénalité, puisqu'il y a également des surpénalités selon je l'ai dit il y a un instant, selon la bonne volonté de faire ou de ne pas faire, ou la possibilité, parce que des fois c'est une histoire de possibilité, quand on ne peut pas faire. Donc nous payons moins de pénalités. L'État m'avait enlevé le droit de préemption, donc j'étais en position de carence, hein, pas de droit de préemption et sur pénalité. Donc j'ai récupéré le droit de préemption et je n'ai plus de sur pénalité. Mais non. La commune a quand même des pénalités. Cette année, nous allons encore acquitter 60 000 euros.
Oui. À votre avis, combien de temps faudra-t-il pour arriver à ce quota ?
Alors, la question est de savoir si on peut y arriver.
Si
on peut y arriver, parce que nous avons un objectif donc, qui est proportionnel au nombre de résidences principales de la commune. Mais quand la commune s'agrandit et quand nous construisons, nous augmentons en fait l'objectif. Sur la prochaine période triennale, ainsi, nous avons 205 logements à réaliser. Et c'est très difficile. Alors, réaliser des logements sociaux, c'est intéressant. J'estime que pour un maire, c'est intéressant parce que nous avons une très forte demande. Il faut savoir que dans l'Aude, 80% de la population a droit à un logement social.
Oui, ça, c'est la théorie.
Non, il y a plusieurs niveaux de logements sociaux et effectivement, tout le monde n'a pas droit à tous les logements, mais 80% de la population a droit quelque part à un logement. Donc il y a une forte demande parce que aujourd'hui il y a beaucoup plus de couples monoparentaux, il y a beaucoup de personnes seules avec des petites retraites ou des petites retraites de réversion.
Oui, tout ça c'est d'une clientèle potentielle.
Qui est locale, qui existe sur la commune.
Sur la commune.
Je suis très sollicité pour des demandes de logement de la part de mes administrés. Donc, pour un maire, c'est nécessaire. Et cela nous permet également de faire construire des logements sociaux aussi plus adaptés aux personnes âgées.
Plus ciblés par rapport à la demande.
Avec des ascenseurs, avec des douches à l'italienne, avec des salles pour se retrouver, etc. Également, l'accession à la propriété, nous avons un projet sur Sijan actuellement, fait partie de ces logements. Donc, c'est quand même intéressant, pour nous. Par contre, bon, je pense qu'à un moment donné, la demande peut avoir une limite. Et je trouve dommage que ces objectifs, alors qu'aujourd'hui nous parlons de mutualisation et de transfert de compétences vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération, mais là on reste sur un objectif purement communal, alors qu'il pourrait très certainement être envisagé à l'échelle de l'agglomération.
De l'agglomération. On marque une première pause, Michel Jam, et on se retrouve dans une seconde partie où on va évoquer peut-être encore un peu votre commune Sijan, mais également votre compétence. Alors là, je le répète, c'est le grand cycle de l'eau dans la communauté d'agglomération du Grand Narbonne.